C'est un homme aux yeux clairs qui raconte des histoires sombres. Celle d'un pays lointain qu'il a vu sombrer de près. Fils d'un juge monarchiste, Atik Raïmi l'Afghan a vécu les soubresauts de l'histoire de son pays dans sa chair. Le coup d'état contre le roi pousse sa famille à trouver refuge en Inde puis au Pakistan. Lui qui écrit des poèmes depuis son plus jeune âge, emporte dans ses maigres bagages sa capacité à sublimer l'instant, aussi amer soit-il.
Arrivé à la frontière, le passeur d'homme nous arrête et dit « Jetez un dernier regard sur votre terre. » Et derrière nous, on voyait que la trace de nos pas sur la neige. De l'autre côté de la frontière, pleine, une page blanche, sans trace aucune. Et là, je dis, voilà, l'exil, c'est ça, une page blanche qu'il faut remplir.
Des pages, il en remplira. Alors que son pays est occupé par les soviétiques puis repris par les talibans, il demande et obtient l'asile en France. Mais à mesure qu'il s'éloigne, l'Afghanistan le poursuit, alors il écrit. Après trois premiers ouvrages, son premier roman en français lui vaut le prix Goncourt en 2008. Singe Sabour, ou les confidences d'une femme afghane au chevet de son soldat de mari, résonne comme un plaidoyer pour les droits des femmes de son pays. Suivront de nombreuses autres œuvres, mais aussi des films et des documentaires.
Quand je ne sais pas écrire, je fais de films. Quand je ne sais pas faire de films, je dessine. Et quand je ne sais pas dessiner, je vis, etc., etc.
Aujourd'hui, Atik Raïmi, qui vit entre Paris et Kaboul, est sans conteste le plus connu des auteurs afghans en France. Mais l'homme à l'éternel chapeau ne semble pas avoir attrapé la grosse tête pour autant. Sa notoriété, il la met à profit pour attirer l'attention sur le sort des migrants, afghans notamment. Lui qui a aussi connu l'exil, la peur et les foyers pour réfugiés, continue d'être habité par son passé.
Et ces souffrances du peuple afghan qui remontent maintenant à de nombreuses années, effectivement, il y a eu le régime des talibans, et on en parle, on est plutôt vers la fin du régime des talibans, dans les porteurs d'eau. Elles ont été longtemps méconnues ou ignorées par les Occidentaux, ces souffrances.
D'abord, au début, pendant la guerre afghano-soviétique, où quand même, il y a eu des journalistes français, le monde entier, qui ont rentré en Afghanistan, parce que la guerre froide exigeait ça. Donc, à ce moment... Il y a eu des films, il y a eu des échos. Mais le moment où commence la guerre civile, avec l'arrivée de Massoud au pouvoir, etc., là, bon, petit à petit, le monde entier a laissé tomber l'Afghanistan, malheureusement.
Le monde entier a laissé tomber, a fermé les yeux, à regarder ailleurs, en fait.
Ailleurs, absolument.
Vincent. Et il a fallu que ces statues soient détruites pour qu'on regarde l'Afghanistan. Il y a dans votre livre des pages magnifiques sur le pouvoir de l'art et peut-être même la supériorité de l'art sur les êtres humains et le fait qu'on est parfois plus atteint quand elles disparaissent que par la mort tragique des gens. Comment vous expliquez ce paradoxe, le fait, vous écrivez, les êtres humains sont condamnés à mourir, pas les œuvres d'art?
Oui, c'est un paradoxe. Et aussi, ça peut paraître un peu cynique.
Oui,
un peu. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai pour moi, c'est comme... Toute ma identité était dans ces deux statues. Et le jour où je les ai vues tomber, je suis tombé avec les deux statues. J'étais en Espagne pour promouvoir la sortie de mon livre Terre et Cendres là-bas. Et c'était ce jour-là. Et en plus, dans l'école de Beaux-Arts de Madrid. Donc, le choc était énorme. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour réfléchir et puis sortir un livre en hommage à ces deux statues.
Et alors, dans les porteurs d'eau, il y a trois histoires en fait, qui se croisent. Il y a l'histoire des deux statues, des Bouddhas détruits. Et puis, il y a deux Afghans. Il y a un réfugié à Paris, qui est entre Paris et Amsterdam, et puis un jeune Afghan qui vit à Kaboul. Et vous parlez du travail d'exil. Il y a un exilé, donc celui qui vit à Paris. Qu'est-ce que c'est que le travail d'exil pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression, le travail d'exil? C'est votre propre vie, Atik Raïmi. Vous-même, vous avez fait un travail d'exil au fil de votre existence.
Bien sûr. Oui, plusieurs fois, on a fait la similitude entre le travail de deuil et le travail d'exil.
C'est vrai que c'est la même chose, ça ressemble au travail de deuil?
Beaucoup. Il y a beaucoup de rapprochements entre ces deux états. Et bien sûr, dès qu'on quitte le pays, on tombe de... On coupe tout. On vit dans une autre culture, dans une autre langue.
Ça veut dire qu'on oublie?
On n'oublie pas. On n'oublie jamais. Non. C'est comme la disparition de quelqu'un. Mais la blessure reste toujours, même si cicatrisée, dès qu'on regarde cette blessure, on pense justement à cette souleur, à cette souffrance.
Alors, vous parlez persan, vous écrivez vos romans, et notamment les Porteurs d'eau, en français. Qu'est-ce que la langue française vous apporte pour exprimer justement ces sentiments complexes de l'exilé?
D'abord, ça me permet un peu de prendre distance par rapport à ma langue d'origine, qui est une langue très, très rhétorique, très symbolique, très métaphorique et poétique. Donc, je crois que le roman exige un autre langage. Bon, les autres écrivains avant arrivent. Moi, je ne suis pas encore débarrassé de la, de justement, de mes veines, de la poésie afghane, etc. Et en même temps, oui, le français, pour moi, c'était une langue de fantasme, mine de rien. Parce que j'avais 11 ans que où je suis entré au lycée franco-afghan. C'était en 1973, lorsque mon père a été arrêté. Je suis resté avec ma mère. Et à ce moment-là, je devais passer le concours du lycée Stéclade et entrer. Et pour moi, l'absence du père est rester avec ma mère et apprendre le français. Et c'était quelque chose.
C'est votre langue paternelle.
Voilà. Et alors, votre père, Atik Rahimi, vous l'avez rejoint ensuite en Inde. L'Inde, c'est donc un pays qui vous est particulièrement cher. Il y a un autre sujet qui vous est particulièrement cher, c'est la condition des femmes, sur laquelle vous écrivez aussi. Précisément, Camille, en Inde, on a vu récemment une formidable chaîne humaine qui d'ailleurs pourrait inspirer peut-être ailleurs dans d'autres pays.
Oui, c'est une image assez spectaculaire que nous ont offert les femmes de l'état de Kerala dans le sud de l'Inde le 1er janvier. Une chaîne humaine de 620 km de long qui a rassemblé plusieurs millions de manifestantes, uniquement des femmes. Un mur des femmes donc contre le patriarcat qui était d'ailleurs soutenu par le gouvernement communiste de l'état de Kerala qui a même fait fermer les écoles pour l'occasion. À l'origine de cette action, c'est l'interdiction pour les femmes de 10 à 50 ans de pénétrer dans le sanctuaire hindou de Sabarimala. 10 à 50 ans parce que ce sont les femmes qui sont en âge d'avoir leurs règles et qui sont donc considérées comme impures par la société traditionnelle. En octobre dernier, la Cour suprême indienne a décidé de lever cette interdiction ancestrale, déclenchant les protestations des hindouistes les plus conservateurs qui ont malgré tout, depuis octobre, continué à empêcher l'accès des femmes au temple avec le soutien du BJP, le parti du Premier ministre indien Narendra Modi. Et puis finalement, hier, au lendemain de cette chaîne humaine, deux femmes ont réussi à pénétrer dans le temple sous escorte policière, ce qui a provoqué de nouvelles échauffourées. Atik Rahimi, quel regard vous portez sur, sur cette mobilisation qui est vraiment d'une ampleur assez inédite?
Déjà, je salue toutes les femmes indiennes pour mener une telle action. Et n'oublions pas quand même que ce pays-là, l'Inde, qui est vraiment toute son histoire fondée sur le bouddhisme, l'hindouisme, etc., dans lequel, jusqu'à l'arrivée de l'islam dans ce pays, ensuite le christianisme et les Anglais, les femmes n'avaient pas sous la même condition qu'aujourd'hui en Inde. Mais malheureusement, le puritanisme anglais de l'époque et puis la religion musulmane, ils ont imposé aux hindous beaucoup de choses, entre autres, par exemple, l'eau de Sari. Ça, ça n'existait pas avant.
Et vous-même, pour ce qui est de la condition des femmes en Afghanistan, vous racontez que vous avez la nostalgie, en tout cas vous avez les souvenirs de photos de vos cousines en mini-jupe. C'était dans les années 70.
70, de ma mère, ma sœur. J'ai pas mal de photos de cette époque. Bien sûr, ceci dit que c'était bien sûr dans les grandes villes d'Afghanistan. Mais le progrès commence toujours, et la modernité, dans les villes. Donc c'était un chemin de l'Afghanistan vers le modernisme et vers la libération des femmes. Alors.
Clichés, grandes destinations, petites observations. L'Afghanistan. Dans l'imaginaire collectif, l'Afghanistan est un pays insoumis à son climat aride, aux envahisseurs, Alexandre le Grand, Gengis Khan, anglaise ou soviétique. Un carrefour d'Asie bigarré, chamarré, où l'on vit simplement, aime intensément et meurt bravement. Mais que reste-t-il ? Des autres clichés d'Afghanistan. Le pavot. Aux Afghans, la nature a offert le plus grand gisement de lapis-lazuli, la roche qui a excité les Médicis autant que Louis XIV, et les conditions idéales pour la culture d'une fleur très colorée, le papaver somniferum. Hélas, la plante sécrète un latex blanc, l'opium, base de l'héroïne. Le pavot fait vivre plus de 2 millions d'Afghans, les opioïdes mourir à petit feu, 35 millions de terriens. Joseph Kessel. Le romancier académicien résistant, auteur du Chant des partisans, déclarait sa flamme aux Afghans dans une épopée romanesque, Les Cavaliers, hommage aux hommes, aux chevaux et au jeu du bouscatchi, dérivé de polo joué avec un veau mort. Hélas, Bouddha de Bamiyan, femmes libres et cerfs-volants, ont été volés au souvenir de Kessel par les funestes talibans. Le commandant Massoud. Avec son pacole et sa calache, le lion du Panchir symbolisait la résistance. Sa légende compte 7 victoires lors d'attaques soviétiques d'envergure. Il est aussi la bête noire du Mollah Omar durant la dictature des talibans. Hélas, deux jours avant le 11 septembre, des kamikazes belges d'Al-Qaïda l'ont ventilé. C'est son fils Ahmad qui porte désormais la crinière et veut croquer la présidentielle 2019. Le lion n'est pas mort ce soir. Afghanistan, pays rustique et tumultueux, pays de vents violents, de pouvoirs forts, de tribus séculaires et de foi immodérée. En clair, c'est quand tout est perdu que rien n'est perdu.
Certains temps, mais maintenant de moins en moins, parce que quand je vais là-bas, je vis pas, je peux pas sortir comme avant, me promener dans les rues.
Comment va aujourd'hui l'Afghanistan aujourd'hui?
Très mal, très très mal. Les talibans, ils sont de plus en plus présents dans les villages, mais même à Kaboul, ils font des attentats suicides en permanence. Donc, non, c'est de pire en pire, malheureusement. Mm-hmm. Vous voyez, donc là, quand je vois justement ces images de clichés, c'est très très bien vu, en effet. Le livre de Kessel était devenu presque une sorte de guide routard de tous les journalistes, de tous les jeunes Français notamment, qui cherchaient un héros dans les années 70, 80. Normalement, il y a un conflit pour créer leur propre mythe, parce qu'ils étaient un peu frustrés par rapport à la génération de 68 et ici. Donc, il fallait trouver une figure. Et Massoud tombait très bien. Donc, on a créé un mythe. Et puis, alors que derrière, on sait qu'en tant que chef de guerre, tout ce qu'il a commis comme erreur, et même comme aurore dans le pays.
Et on a un cycle infernal de tragédies, vous le disiez, avec le retour des talibans aujourd'hui, qui reprennent du point en Afghanistan.